pendant que vous cherchez le chapitre 3 de la Genèse que l'on va lire ce matin, vous préparez le verset 8, je voudrais vous donner le thème de ce message. Vous le comprendrez peut-être plus tard, le thème de ce message est le liquidateur. Et ce n'est pas forcément ce que vous croyez. On va ouvrir ensemble dans le livre de la Genèse, mais juste avant, je voudrais vous raconter une merveilleuse histoire d'amour, celle d'un Dieu qui aime tellement l'être humain, qui lui a préparé un petit paradis sur la terre. Et ce paradis, ça s'appelle l'Éden. Je suis fâché de ce qu'on ait gâché ça, parce que c'était vraiment très beau. La Bible nous disait, dans le chapitre 2, ne cherchez pas, je vous le lis simplement, mais l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, qui s'appelle l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant un fruit délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'était extraordinaire. L'histoire d'amour de Dieu et l'humanité, elle a commencé il y a des millénaires. C'était un plan divin que Dieu, tout en étant le Dieu des cieux, puisse passer son temps sur la terre parmi les hommes. Est-ce que vous imaginez qu'il y a eu un temps sur la terre où Dieu était présent? Et c'est ce que l'on lit dans le chapitre 3 au verset 8. Vous lisez juste avec moi ce verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent, et c'est Adam et Ève, l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Pourquoi cela? Parce que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas mon thème ce matin. Je ne voudrais pas revenir sur ce péché, qu'est-ce que ça veut dire. Vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé lorsque Dieu te donne une consigne claire que tu ne respectes pas, tu trouves des arguments, tu trouves des excuses, tu dis « c'est la faute des autres, j'ai été tenté par l'autre ». Adam dit que c'est la faute de Ève, Ève dit que c'est la faute de la mauvaise circonstance et du serpent, et chacun remet la faute sur l'autre. Et Dieu dit « le péché, je ne peux pas le tolérer ». Regardez ce qui se passe, voilà le thème clé de ce matin, verset 23. Alors l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens, et dans ma version, c'est pour barrer l'accès à l'arbre de la vie. Vous voyez, je vous ai amené une épée ce matin. Elle n'est pas flamboyante, mais vous comprenez quand même que c'est une épée. Et cette épée, c'est terrible. Parce que c'est la première fois que, dans la Bible, il est parlé d'une arme. Vous avez réalisé ça? Dieu a dû donner une arme à ses anges, à ses chérubins. Pourquoi? Pour dire à l'homme, tu ne passeras pas. Et il y a quelque chose d'incroyable. Vous voyez, il dit, l'épée, elle était là pour barrer. Elle tournoyait dans tous les sens et elle barrait l'accès à l'arbre de la vie. Vous avez compris ça? Barrer l'accès à l'arbre de la vie. Pourquoi barrer l'accès à l'arbre de la vie? Parce que Dieu dit, si l'homme, dans son péché, en plus de son péché, parce qu'il connaît maintenant le bien et le mal, si il vit éternellement, il vivra éternellement dans le péché. Et je ne peux pas supporter que l'homme à qui j'ai tout donné, pour pas qu'il soit seul, je lui ai donné la plus belle femme peut-être qui a jamais existé sur la terre. Elle s'appelait Ève. Il avait le plus beau jardin, il avait le meilleur des climats. C'était un paradis en Éden, puisqu'il a choisi le péché. Je ne peux pas tolérer le péché. Je ne sais pas si vous imaginez pourquoi Dieu est en colère comme ça, parce que ça ne ressemble pas à mon Dieu. Mon Dieu est rarement en colère. Toi, tu te mets beaucoup plus en colère, mais Dieu, lui, est rarement en colère. La seule chose qui met Dieu en colère, c'est vraiment le péché. Mais pour comprendre pourquoi Dieu, qui avait tout créé, parce que peut-être Adam, il a une petite larme qui coule en disant « j'ai gâché ». Comme toi, quand tu pèches, quand tu fais le mal, quand tu n'as pas été à la hauteur de tes engagements avec Dieu, tu pleures un peu. Peut-être que la personne qui est avec toi dans ta vie, et lorsque vous avez péché, vous êtes en train de pleurer un peu. Mais je voudrais parler de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu, lui, est autant en colère? Je ne sais pas, je ne demande absolument pas de lever la main ce matin à la question que je vais vous poser. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faudrait que je demande à ceux qui ont été trompés. Ceux qui, un jour, ont mis toute leur confiance en quelqu'un avec qui ils ont bâti un petit paradis. Et lorsque vous vivez cette chose, qu'est une personne à qui vous avez tout donné par amour, vous appelez Dieu. Vous avez tout donné et cette personne qui s'appelle l'humanité va flirter avec un serpent. Et vous voyez, c'est un des rares moments dans la Bible où on voit Dieu vraiment en colère et Dieu prend une arme et dit « Cette épée te barrera l'accès à l'arbre de la vie. » À partir de ce moment-là, commence un mouvement sombre pour l'humanité. Pendant des siècles, des hommes et des femmes vont tenter d'avoir accès à l'arbre de la vie, à l'arbre de la vie éternelle. Vont tenter d'avoir accès un jour à la présence de Dieu. Et pourtant, dans Romains 3, au verset 23, il est dit, vous le connaissez par cœur, car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Vous voyez, il y a un moment où Dieu ne peut pas tolérer le péché. Est-ce que Dieu aurait voulu rester avec Adam et Ève? Oui, mais Dieu ne peut pas rester avec Adam et Ève qui choisissent leur péché. Comme Dieu ne pourra pas rester avec toi dans ta vie, tu pourras pas. Dieu ne veut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir, en même temps que tu as une relation avec lui, une relation avec le péché. Tu peux pas dire « Dieu, je t'aime » et flirter avec ton péché en même temps. Il y a un moment où Dieu dit « Tu dois choisir ». Les siècles passent. Vous savez cette épée? Regardez cette épée. Les hommes l'ont utilisée également. Dieu a utilisé l'épée comme une arme défensive pour protéger. Dieu n'a pas découpé Adam avec l'épée. Pourtant, pendant des générations et des générations, les hommes vont utiliser l'épée pour se découper, pour tuer, pour faire du mal. Et certains, au nom de Dieu. Et vous savez que certains étaient bien intentionnés et vont utiliser des épées tournoyantes en faisant comme s'ils appliquaient la justice de Dieu. Parce qu'il y a eu, Dieu a fait une première tentative, une première alliance, c'est l'alliance de la loi. Et un peuple a essayé, avec le moyen de l'épée, de conquérir un pays qui s'appellerait Canaan. Et de faire un nouvel Éden, un pays où coule le lait et le miel, un pays qui était prévu par Dieu. Ils ont utilisé l'épée. Mais même les meilleurs parmi eux, et je pense qu'il y en a un qui est très bien, vous le connaissez, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre va essayer avec l'épée de recréer le jardin d'Éden. On lit ensemble dans l'évangile de Jean, prenez avec moi ce matin, dans l'évangile de Jean. Cette scène se situe dans un jardin. Pour ceux qui sont allés en Israël, au Mont des Oliviers, c'est un jardin magnifique. mais un jardin où notre Sauveur a vécu un des moments les plus terribles, puisqu'il était en telle souffrance que des grumeaux de sang coulaient de son front alors qu'il disait « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. » Et regardez ce que font les hommes qui veulent accomplir la justice de Dieu avec l'épée. Au verset 10. Au verset 10. Alors qu'au verset 9, Jésus dit « Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donné. » Mais au verset 10, il est dit « Simon-Pierre qui avait une épée. » Simon-Pierre, il croit qu'on va établir le royaume de Dieu sur la terre par l'épée. Simon-Pierre qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée. Je vais vous demander de regarder une vidéo. Peut-être vous comprendrez du coup le titre de ce message. Cette vidéo dure environ 3 minutes. Ce lieu est un cimetière, c'est tiré d'un film appelé Le Sacrifice. Ce n'est pas du tout un film chrétien. Vous voyez les tombes là, elles sont très nombreuses. Cette femme se recueille devant la tombe de son mari, qui fait partie des liquidateurs. Cet hélicoptère est en train de survoler Tchernobyl, qui vient d'exploser quelques heures auparavant. Voici les premières images du cratère de Tchernobyl après son explosion du réacteur nucléaire.
На крыше АЭС я был 4 дня. Первый день я, значит, долбил бортик плиты, чтобы был стёк воды. На второй день скидывал бетонную плиту. Это минут 5 задержалось у нас. На третий день снимали вентиляционную эту трубу, скидывали. Вот, и на четвертый день я скинул один кусок графита.
Les morceaux de graphite, c'est l'uranium. Regardez ces zones.
И пришлось руками взять и туда выбросить. Вот.
Le graphite et l'uranium répandus sur le toit de la centrale de Tchernobyl irradiaient jusqu'à 20 000 röntgenheures. Un morceau de graphite tenu entre la main transmettait en une seconde et demie la dose accumulée pendant une vie entière en conditions de radioactivité naturelle. 1 million d'hommes, appelés liquidateurs, ont été lancés contre le réacteur pour le recouvrir avec un sarcophage improvisé en conditions de radioactivité terrifiante et pour effacer les conséquences de la catastrophe partout dans le territoire. Ils ont combattu les radionucléides à main nue, avec des pelles et des jets d'eau. Des dizaines de milliers sont morts et continuent de mourir. Les scientifiques soviétiques calculaient que si l'incendie de Tchernobyl n'était pas éteint pour le 8 mai, le combustible nucléaire en fusion aurait percé la dalle de béton sous-jacente, serait précipité dans le bassin de refroidissement et aurait amorcé une explosion atomique 20 à 50 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'Europe aurait été inhabitable. Le 6 mai, l'incendie était maîtrisé grâce au sacrifice extrême des liquidateurs. Mais ils ont été mal récompensés. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie les ont abandonnés à eux-mêmes. L'Occident les ignore.
Voilà, merci. Les liquidateurs, c'est quoi ? C'est ces hommes, 1 million de personnes. Vous imaginez ce que c'est, 1 million de personnes ? un million de personnes qui ont quitté leur... parce qu'ils n'habitaient pas dans la région, forcément. Un million de personnes qui ont fait un voyage. Souvent, ils venaient en train, ils venaient de l'autre côté de l'Union soviétique. Ils faisaient un long voyage, ils quittaient leurs femmes, leurs enfants, ils leur disaient au revoir. Ils arrivaient à Tchernobyl et au bout de 5 minutes, ils étaient contaminés à mort. Ils avaient 5 minutes. En 5 minutes, le taux de radioactivité était déjà mortel. Ces hommes-là, pour la plupart, le savaient. Parce que les effets de la radioactivité étaient visibles au bout de 5 minutes. Et ces personnes qu'on appelait les liquidateurs vous ont sauvé quelque part, vous tous qui habitez en Europe aujourd'hui. Parce que si ça avait explosé, on n'aurait plus d'Europe aujourd'hui parce qu'elle aurait été inhabitable. Je voudrais prendre avec vous l'évangile de Marc. Au chapitre 15. C'est l'histoire d'un Dieu qui fait un grand voyage, qui a quitté le ciel, qui a quitté la gloire, qui a quitté son Père, qui a quitté les palais, pas pour prendre un train, mais pour venir naître dans une étable et marcher sur la terre jusqu'à une colline qui s'appelle Golgotha. Et ce jour-là, c'est le jour où mon Sauveur, tel un liquidateur, va mourir pour nettoyer mes péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui est venu mourir à votre place pour que vous puissiez espérer vivre? Quelqu'un qui est venu pour nettoyer à mains nues, tellement que ses mains ont été percées, pour nettoyer votre péché. Regardez ce qui est écrit au verset 33 du chapitre 15. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qui l'appelle Élie. » Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant, « Laisse-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Et voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait face à Jésus, face de Jésus, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Jésus est le liquidateur envoyé de Dieu pour prendre la boue de ton péché radioactif et te donner la possibilité de vivre une vie nouvelle. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises qu'il y a un moment où sur la croix, vide. Il y a un moment où, sur une colline, la colline de Golgotha, Jésus a donné sa vie. Est-ce qu'on peut prendre ensemble 2 Colossiens verset 14, 2 verset 14, 2 Colossiens 2 verset 14, 2 Colossiens 2, verset 14. Vous voyez, l'arche de notre paradis, qui était l'Éden, a disparu. Le paradis d'Éden est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que regardez ce qu'a fait le liquidateur. Car il a annulé l'acte, alléluia, qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Ces fameux commandements de Dieu qui dit « tu n'auras plus accès à l'arbre de la vie ». Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Vous voyez, mais j'aime Dieu parce que Dieu savait que ce n'était pas l'homme qui allait faire le premier pas. Et peut-être c'est quelque chose que tu as du mal à comprendre. Mais l'amour de Dieu était tellement en souffrance de cette séparation avec l'homme. Il est écrit, regardez, dans 2 Corinthiens 5, 19, ça s'affiche sur vos écrans. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes, alléluia, avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Et dans Colossiens, pareil, au chapitre 2, verset 9, je vous le dis simplement, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite la plénitude de tout ce qui est en Dieu. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut prendre Luc, chapitre 23, verset 30? Luc chapitre 23, verset 30. Merci. Luc chapitre 23, verset 30. Vous avez déjà trouvé l'endroit où se trouve Éden ? Vous êtes retourné en Irak, en Iran, ça devait être vers là ? Vous avez trouvé le jardin d'Éden ? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé ? Non. Vous avez trouvé l'arbre de la vie ? Vous avez trouvé l'arbre de la vie, celui qui l'avait, si quelqu'un l'avait trouvé, je vous assure. Il ne l'aurait pas dit aux autres parce qu'il aurait tout pris pour lui. Mais personne ne l'a trouvé. Vous savez pourquoi ? Parce que cet arbre a été coupé par Dieu. Parce que l'accès au jardin ayant été barré, Dieu a détruit l'arbre de la vie. Et il y a eu vraiment une fin au paradis. Mais regardez quelque chose, ce verset, il est incroyable. Je ne l'avais jamais entendu, aucune prédication parler de ce verset. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble le verset 31. On va peut-être prendre le verset 30, c'est Jésus qui parle. Il est en train de marcher avec Simon de Cyrène sur la route qui mène au calvaire. Et voici ce qu'il dit, il est en train de parler aux femmes qui pleurent et disent « Oh, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous et de vos enfants. » Et au verset 30, il dit « Alors on se mettra à dire, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort ?» Vous comprenez cette phrase ? Bizarre cette phrase. Jésus, alors qu'il n'a que quelques mots à prononcer, c'est les derniers mots de Jésus avant de mourir et d'expirer sur la croix. Il dit, si l'on a traité ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort ? Il y avait un arbre dans le paradis, un arbre qui était verdoyant, un arbre qui était vert et que Dieu a dû couper pour nous enlever l'accès au ciel. Et vous voyez ce qui est incroyable, c'est qu'il y a sur la colline, oh pardonnez-moi, soyez plein d'indulgence envers ma colline, mais Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait un mont sur le calvaire où Jésus a souffri tant de douleurs. Et regardez ce qu'il est écrit. Au verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix ainsi que deux bandits, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Et Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas où ils le vont. » Regardez cette colline. Regardez cette colline. C'est une colline où il n'y a pas de végétation. Sur la colline de Golgotha, c'est un endroit qui est balayé par les vents. C'est un endroit aride et sec. C'est un endroit où l'arbre de la vie ne pousse pas. Vous comprenez cela ? C'est pas là qu'on peut. C'est pas le Éden du départ. C'est une colline dans la banlieue de Jérusalem aujourd'hui. Une colline où toute la végétation est brûlée par les vents. Mais regardez ce qui se passe. Vous rappelez l'épée de tout à l'heure ? Cette épée qui tournait. D'abord parce que Dieu disait que cette épée bloquait, barrait le passage. Regardez ce qui se passe, ce que Dieu a fait avec cette épée. Cette épée, Dieu l'a prise et a renversé l'épée. Et quand l'épée est renversée, alléluia, ça donne ma croix. La croix de Jésus. Et vous voyez, c'est pas du bois vert, ça. C'est du bois sec. Est-ce que vous comprenez ce matin ? Vous arrivez à suivre ce que je veux dire ? Il y a un enseignement de Dieu là-dedans. C'est que Dieu a pris l'épée, a retourné l'épée. L'épée qui tournoyait dans tous les sens que l'on a lu au début de cette prédication. Et Dieu l'a plantée dans un des endroits les plus arides de la terre. Et sur cette épée renversée, qu'on appelle une croix, cette croix fut plantée, cette croix fut dressée. Et sur cette croix, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Tout à l'heure, je parlais du bois vert. Les caractéristiques de l'arbre de la vie. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand jardinier pour comprendre cela. Mais la sève, vous voyez, elle monte dans les branches, d'accord ? C'est ça qui fait que le bois est vert. C'est que des racines, on monte et on fait l'arbre, ok ? Mais cet arbre qui était à Golgotha était un arbre sec. Un arbre coupé, dans lequel cette croix, le bois n'a pas la vie. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, lorsque ses mains sont clouées et percées, le sang coule. Lorsque son front a la couronne d'épines, le sang coule. Et vous voyez, ce qui va donner la vie, c'est comme une sève inversée, le sang de Jésus. Oh, j'aime ça, que le sang de Jésus. C'est pour ça que c'est bizarre, les chrétiens. On croit que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Pourquoi ? Parce que la sève ne vient pas du bois. Mais ce qui peut irriguer ta vie, ce qui peut être capable de te redonner la vie, fait que ça descend de la croix et ça coule sur la colline du calvaire. Et ce qui était aride va avoir le sang, va avoir la vie. Est-ce que vous comprenez ça ce matin ? Est-ce que vous comprenez quel est le prix que celui qui a fait le sacrifice, que ce liquidateur du péché qui s'appelle Jésus a payé pour toi ? Est-ce que tu le réalises ? On va fermer les yeux ensemble. Pense à la croix ce matin. Pense à la croix. La Bible dit, il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont prononcé aucun mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Il remettait sa cause entre les mains du juste juge et il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris, pardonnés. Alléluia. Oh mon Jésus, il a été attaché à la croix pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et aujourd'hui, quand l'apôtre Paul dit « J'arrive pas à m'en sortir avec le péché dans ma vie. Je connais la loi, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et l'apôtre Paul dit « L'Esprit qui était en Christ me donne la force de triompher du mal. » Et vous savez ce que c'est que l'Esprit ? Alléluia. Vos yeux sont fermés, mais je peux vous dire, c'est encore un secret que j'ai découvert, mais c'est que l'Esprit, dans Éphésiens, parmi les armes du chrétien, c'est l'épée. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'épée n'est plus contre vous, l'épée est pour vous. La condamnation a été payée à la croix du calvaire et maintenant la force de l'Esprit de Dieu habite en vous. Et à la croix, tout est payé. Il a pris mon péché. Il a pris ton péché. Je voudrais les têtes restent fermées. Les yeux restent fermés, les têtes restent baissées. Pendant que l'équipe de louanges puisse prendre ce cantique qui dit « Attaché à la croix pour moi ».
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix. À la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste. Pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
Et maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8 nous dit « Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils, d'une nature semblable à celle des hommes pécheurs, pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Et que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Non. Verset 37, il dit, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'on peut se lever ensemble et déclarer ce chant attaché à la croix pour moi.
T'es innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, changé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères.
Mon sauveur fut reçu au ciel.
Mon sauveur se rendit
au Jésus
au ciel.
Il revient,
il revient au profond mystère. Bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché.